Bonjour à vous tous à travers le monde. Je suis content de pouvoir vous adresser la parole ce soir au commencement de la fête des tabernacles. Dieu bénit l'œuvre beaucoup. Nous allons de l'avant, nous croissons et nous allons avoir une très belle fête. Un peu plus loin, je vais prendre un peu de temps de vous parler des premiers jours de fête que j'ai observés et je vais vous expliquer le sens de la fête. Je vais garder mon message court pour que vous ayez l'occasion de bien dormir ce soir. Mais je vous donnais quelques informations précises. Comment l'œuvre s'est développée en ces temps de la fin, comment M. Armstrong a agi. J'ai dit, je vais vous raconter l'histoire de l'Église. M. Ames m'a dit, Rod, tu es l'histoire de l'Église. J'étais là. M. Armstrong a travaillé dans l'œuvre. Je vais vous raconter comment c'était à ce moment-là. M. Armstrong nous a expliqué comment célébrer la fête que nous faisons aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous allez peut-être entendre ça pour la dernière fois. J'ai 86 ans et c'est peut-être la dernière fois que je célèbre la fête. Je ne veux pas vous rendre mal à l'aise, mais c'est normal. J'ai eu une belle vie, une vie pleine. J'ai eu deux belles épouses, deux épouses charmantes, 6 enfants, 10 petits-enfants et 4 arrière-petits-enfants. Et j'ai eu une très belle famille physique aussi, ma sœur Catherine et des parents. Très bon. Je suis maintenant membre d'une famille étendue, spirituelle extraordinaire. J'ai eu une très bonne vie. Dieu ne nous promet pas la vie éternelle dans la chair humaine. Et c'est pour ça que j'ai demandé à M. Weston de prendre charge de l'Église. C'est un homme très compétent. C'est un serviteur fidèle de Dieu depuis 40 ans, à plein temps. Un serviteur très dévoué. Et chose très importante, c'est un excellent administrateur. C'est quelqu'un qui est capable de régler les problèmes. Il est capable d'identifier les problèmes et d'amener des solutions. Et je sais qu'il va faire un travail excellent sous la direction de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, ici à Charlotte, alors que les mois vont passer. Frères et sœurs, pourquoi sommes-nous ici? Comme M. Armstrong avait l'habitude de nous dire au commencement de la fête des tabernacles. Pourquoi sommes-nous ici? Luc, chapitre 4 et le verset 4, le Christ dit ceci. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, il nous faut vivre selon toutes les directives de Dieu. Pas une partie seulement des paroles de Dieu, mais toutes les paroles de Dieu. Frères et sœurs, vous savez que le Christ s'est référé constamment à l'Ancien Testament en parlant des Écritures. L'Ancien Testament, c'est également la parole de Dieu. Le Nouveau Testament, c'est la même parole de Dieu, mais magnifiée. Ça crée un ensemble. Tout ça est la parole de Dieu. L'ensemble de la parole est inspiré par le Dieu Tout-Puissant et ça nous donne un mode de vie, la façon de vivre chrétiennement. Dans Galates 2 et le verset 20, mon verset favori, vous savez, l'apôtre a écrit ceci, j'ai été crucifié avec le Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Rappelez-vous ces phrases-là, frères et sœurs. C'est le Christ qui vit en nous. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi du Fils de Dieu, par la foi de Jésus. Alors, il faut avoir la foi du Christ en nous et en vivre. Voilà la sorte de vie que nous devons mener. Et non pas une autre façon de vivre. Dans Hébreux 13 et le verset 8, il est écrit quelque chose de très important. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et au cours de sa vie, comme vous savez, il a observé le sabbat, toujours. C'était sa coutume. Il a observé les jours saints annuels et il nous a donné l'exemple. C'est ça le christianisme. Ce monde a été totalement séduit. Presque dans tous les aspects du christianisme, ce monde a été séduit. Et on préconise maintenant les mariages entre gens de même sexe et toutes sortes de perversités sexuelles. Nos parents et nos grands-parents diraient que c'est une folie absolue. Mais les gens aujourd'hui, en général, acceptent ça. Et les médias publient ça. La radio, la télévision, les journalistes veulent ces choses-là, en font la promotion et tentent de séduire nos jeunes gens. Et il faut avertir nos jeunes. Écoutez, nous sommes créés hommes et femmes. Pour raisons précises, nous sommes faits à l'image de Dieu et il nous faut apprendre à être comme Dieu et à l'honorer. Il nous faut comprendre ces choses-là. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il nous a donné l'exemple. Tournez, s'il vous plaît, à Jean, chapitre 7, l'évangile de Jean, chapitre 7 et le verset 1. Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Il n'imitait pas les Juifs. Il a condamné constamment leurs traditions. Il leur a dit, vous gardez des traditions d'hommes et vous rejetez les commandements de Dieu. Il leur a dit ces choses-là à plusieurs reprises. Il n'observa pas les coutumes des gens. Il suivait la loi de Dieu, la voie divine, et il nous a donné en cela un exemple. Verset 2, or la fête des Juifs, la fête des tabernacles, on l'appelle la fête des Juifs parce que les Juifs l'observaient. Cette fête-là était proche et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Ils ont cru en lui par après. Jude et Jacques ensuite sont devenus très dévoués envers l'Église, ses deux frères, Jude et Jacques. Jacques est même devenu un apôtre dirigeant à Jérusalem. Mais à ce moment-là, ses frères physiques ne croyaient pas en lui. Alors, comme c'est écrit ici, ses frères ne croyaient pas en lui. Verset 6, Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Ses frères faisaient encore partie du monde, ils ne comprenaient pas. Dieu n'avait pas ouvert leur esprit. Le Saint-Esprit de Dieu n'avait pas été répandu avant le jour de la Pentecôte qui est venu plus tard. Verset 7, le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez-vous à cette fête. Voici le Fils de Dieu sur la terre. Il avait été avec Dieu pour toute l'éternité et c'est celui qui avait dit qu'il y ait de la lumière et la lumière fut. Celui qui a parlé avec Abraham, Isaac et Jacob, le Dieu de l'Ancien Testament. Celui qui a donné le sabbat, celui qui a donné les jours saints. Qu'est-ce qu'il dit à ses frères ici? Il ne dit pas des choses païennes. Il n'aurait jamais fait ça. Il était Dieu. Montez-vous à cette fête. C'est ce qu'on doit faire. C'est le commandement de Dieu. Montez-vous à cette fête. Pour moi, je n'y monte pas encore, parce que mon temps n'est pas encore accompli. Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret, parce qu'il savait que les Juifs voulaient essayer de le tuer en route. Alors, il est allé discrètement, en secret, et tout à coup, il est apparu au milieu de la foule. Verset 14. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple. Il enseignait. On voit qu'il a enseigné durant la fête. Il a observé la fête. Il était là. Verset 15. Les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Dieu l'avait envoyé et il enseignait la doctrine de Dieu, et non pas des doctrines humaines. Si quelqu'un veut faire sa volonté, en parlant de la volonté du Père, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon propre chef. Le Christ nous donnait un exemple et il faisait ce que le Père avait dit de faire. Il était la lumière du monde. Pensez à ça tout le temps. C'est ça le christianisme. Ne laissez personne vous rendre confus à propos de ça. Notre ancienne organisation est retournée au protestantisme. Ils n'avaient pas prouvé les choses. Qu'est-ce que le vrai christianisme? C'est de suivre le Christ. Le vrai christianisme, c'est de laisser le Christ vivre sa vie en nous. La même vie qu'il a vécue sur la terre il y a plus de 1900 ans. Il nous a donné un exemple et il est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Il a gardé le sabbat. C'est pour ça que nous gardons le sabbat. Il a célébré la fête des tabernacles et c'est pour ça que nous la célébrons. Il nous faut comprendre ça. Le Christ, donc, a célébré la fête des tabernacles et il a prêché aux gens à cette occasion-là. Il nous a donné un exemple en faisant ça. Allons maintenant au livre de Zacharie, s'il vous plaît. Dans l'Ancien Testament, Zacharie 14, c'est un passage prophétique. Ça décrit ce qui approche maintenant. Zacharie chapitre 14, verset 1. Voici, le jour de l'Éternel arrive. Nous savons qu'est-ce que c'est. Le jour de l'Éternel, c'est la dernière année des 3 années et demie de la grande détresse. C'est tout juste avant le retour du Christ, introduisant ensuite le millénium, quand Dieu va intervenir dans les affaires du monde. Et c'est tout proche, ça commence à arriver maintenant. Le Christ revient très bientôt. Ceci va se réaliser bientôt. Voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité. C'est intéressant. La ville est déjà divisée à ce moment-ci entre les Arabes et les Juifs. Tout est prêt pour la réalisation de cette prophétie-là. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel alors paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour-là sur le mont des Oliviers. Le Christ va revenir sur la terre et il va revenir en tant que guerrier. Il va diriger avec une verge de fer. Dans le passé, je me demandais pourquoi le Christ allait diriger avec une verge de fer. Lorsque je faisais partie d'une église protestante, on nous donnait des images du Christ qui n'étaient pas réalistes. Un homme maigrichon avec des longs cheveux. Non, c'était un charpentier solide. Et quand il va revenir, il revient en tant que roi des rois, seigneur des seigneurs, en tant que chef de l'armée de l'Éternel. Il va combattre et il va vaincre. Rappelez-vous, frères et sœurs, nous allons aussi être des vainqueurs. Nous allons vaincre si nous restons fidèles à Dieu. Nous allons être harassés, nous allons être méprisés, rejetés, accusés. Certains seront battus, jetés en prison, mais à la fin, nous allons vaincre. Le Christ sera avec nous. Il revient bientôt et il va nous bénir extraordinairement et éternellement à son retour. N'oubliez pas, Dieu est Dieu et ces choses-là vont arriver. Ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers lorsqu'il reviendra. Et regardez au verset 9 qui est dit: L'Éternel, le Christ, sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, comme ça nous dit dans Apocalypse chapitre 19. Allez au verset 16 du même chapitre. Verset 16. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem, dans cette troisième guerre mondiale qui va venir, monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. De qui s'agit-il? Il dit au début, tous ceux qui resteront, les survivants de toutes les nations venues contre Jérusalem. Donc, ils devront apprendre à observer la fête des tabernacles. Il faudra qu'ils le fassent. Ils ne feront pas simplement regarder les Juifs célébrer la fête. Ils vont eux-mêmes la célébrer et la comprendre. Et verset 17, s'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour adorer le roi, voyez-vous pourquoi on vient à la fête? Pour adorer le roi en cette occasion spéciale de l'année qui représente la grande moisson de Dieu lorsqu'il appellera tout le monde. La fête de la Pentecôte désigne le petit troupeau que Dieu appelle actuellement. Dieu n'essaie pas de sauver le monde entier actuellement, il appelle seulement un petit troupeau, mais après le retour de Christ, il appellera le reste de l'humanité. Et tous ces gens-là seront appelés à monter à Jérusalem pour observer la fête des tabernacles. Il dit, s'il y a des familles de la terre qui ne montent pas pour adorer l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Pas de pluie sur ces nations-là. Aucune pluie ne tombera sur elles. Et en plus, ils auront d'autres plaies. Il y aura d'extrêmes sécheresses pour eux et d'autres plaies. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations. Dieu parle sérieusement. Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations, verset 19, qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles à Jérusalem. C'est une question importante pour Dieu, très importante. Dieu va punir les nations qui ne voudront pas au début du millénium le faire. Il y aura une sécheresse extrême et d'autres plaies. Le Christ est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Il faut le comprendre. Sachons ces choses-là et apprécions-les. Apocalypse chapitre 3 maintenant, s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 3. Ça décrit les ères de l'Église ou les époques de l'Église au cours de l'histoire. Apocalypse chapitre 3. Dans le chapitre 2, on parle des étapes précédentes. Apocalypse 3, verset 1, il parle de l'Église de Sardes qui a précédé l'Église de Philadelphie, initiée par Dieu à travers M. Armstrong. Nous sommes de l'Église de Philadelphie, même si nous vivons à l'ère de l'Église de Laodicée, la dernière étape. Verset 7, écrit à l'ange de l'Église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. Nous avons gardé la vérité. C'est différent de l'Église de Sardes, verset 1. Regardez ce que le Christ dit de cette Église. Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, mais que tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Wow! Ces gens-là, de l'ère précédente, M. Armstrong, avaient des petits morceaux de la vérité. C'était des gens, pour la plupart des fermiers, et ils observaient une fête à l'automne pendant une semaine seulement, pas pendant 8 jours, et parfois c'était à une époque différente. Ils ne l'appelaient même pas fête des tabernacles. Ils parlaient que c'était une fête de moisson, tout simplement. Ils ne comprenaient pas les fêtes de Dieu, ils ne comprenaient pas la nationalité des tribus descendantes d'Israël. Ils ne savaient pas que Dieu se reproduit actuellement, mais Dieu a appelé M. Armstrong. Et lui a révélé les vérités qui avaient été perdues, en particulier concernant les fêtes que les gens de Sardes avaient perdues et qu'ils n'observaient pas. Ils observaient certaines parties de ces fêtes-là, mais au mauvais moment. C'est pour ça que le Christ dit que cette Église-là était morte. Dieu a révélé à M. Armstrong les vérités concernant l'observance des fêtes. Après ça, il arrive à l'ère de Philadelphie, celle que M. Armstrong a dirigée. Il dit, voici ce que dit celui qui a la clé de David. Et ici, il est question de vrai gouvernement, la forme de gouvernement divine. David était le standard. C'est pour ça qu'il parle de la clé de David. Et c'est pour ça qu'il dit, je connais tes œuvres. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Ça veut dire une façon d'annoncer l'Évangile. Quand Dieu parle d'une porte ouverte, c'est une porte pour annoncer l'Évangile. Et Dieu a ouvert devant M. Armstrong les portes de la radio, les portes de la presse écrite et finalement les portes de la télévision. Et M. Armstrong a utilisé ces portes-là. Il n'a pas utilisé Internet comme nous le faisons maintenant parce que ce n'était pas le cas à l'époque. Mais M. Armstrong a utilisé toutes les autres portes que Dieu a ouvertes devant lui avec puissance. Et aujourd'hui, grâce à Internet, nous dépassons de beaucoup les capacités de rejoindre le monde. Alors, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Je sais que tu as peu de puissance, mais que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Ça veut dire qu'on n'a pas rejeté l'autorité de Dieu ni ses voies. Nous voulons honorer Dieu. Nous voulons faire ce que Dieu dit. Nous voulons montrer à Dieu que nous allons lui obéir. Et si nous le faisons, il va nous donner la vie éternelle en tant que roi et sacrificateur dans le monde à venir. Il faut faire ce que Dieu nous dit et accomplir l'œuvre. Il dit après ça, voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as, verset 10, gardé la parole de la persévérance en moi. Nous sommes l'Église du Dieu vivant. Nous devons persévérer. Nous avons persévéré jusqu'à maintenant. Il nous faut continuer à persévérer dans les voies enseignées par M. Armstrong. Nous continuons d'enseigner toute la vérité biblique et nous célébrons les fêtes de Dieu comme Dieu nous a dit de le faire. parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation, de la grande détresse qui va venir frapper le monde entier. Dieu dit, je vais vous protéger de cette grande tribulation-là. Ça vient sur le monde entier. Nous sommes des vainqueurs. Si vous continuez à obéir à Dieu et à le suivre, vous serez bénis, vous serez protégés et Dieu va vous amener dans son royaume éternel, à jamais. Appréciez ces choses-là, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Et regardez le verset 11. Je viens bientôt. Le Christ revient bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Ne laissez personne prendre votre couronne, vous amener dans la confusion. Il faut faire ce que Dieu dit, honorer Dieu dans toutes ces choses. Et j'espère que vous voyez tous les choses de cette façon-là. Il faut suivre l'exemple que le Christ nous a donné. M. Armstrong avait la crainte de Dieu de façon profonde. Il était disposé à faire tout ce que Dieu demandait. Dans son autobiographie, vous voyez que son épouse, Loma, lui a aidé à découvrir le sabbat. Et quand elle l'a mis au défi, il s'est mis à étudier la Bible jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit, pendant très longtemps. Il a saturé son esprit avec le contenu de la Bible. Ce n'est pas lui qui a inventé ce qu'il annonçait, il a pris ça de la Bible. Je me suis informé à Mme Armstrong et aux autres personnes autour s'il avait réellement fait ça. Et on a confirmé que M. Armstrong s'était appliqué de tout cœur, heure après heure, jour après jour, jour et nuit, pour vraiment étudier toute la Bible. Et Dieu a utilisé cet homme-là pour mettre sur pied l'aire de Philadelphie de l'Église de Dieu. Je suis le seul qui reste de cette époque sous M. Armstrong. Alors écoutez ce que j'ai à vous dire. Portez attention pour votre bien éternel. Frères et sœurs, avant de continuer, j'aimerais vous parler des premiers jours quand je suis venu à l'Église, quand M. Armstrong a compris les faits et nous a donné l'exemple, nous a montré comment faire. J'ai eu l'occasion d'observer les premières fêtes avec lui. J'étais à la fête des Tabernacles avec M. Armstrong en 1949, 1950 et 1951. 3 années. D'abord à Belknap Springs, en Oregon. On a eu une fête formidable. On avait 50 personnes à ce moment-là, la première année. 50, 60 la deuxième année et 90 l'autre. Plusieurs d'entre nous, on habitait dans des cabines, dans des petites cabanes à ce moment-là. Il n'y avait pas de chauffage. C'était l'automne, il faisait froid. Mais on aimait ça. Il y avait un enthousiasme à ce moment-là. On apprenait la vérité. On comprenait des choses que le monde ne comprend pas. Nous nous rassemblions à ce moment-là pour les sermons dans un grand pavillon en bois rond. Il y avait un immense foyer, c'était superbe, c'était très rustique. Et on avait de longues rencontres avec M. Armstrong. M. Armstrong prêchait chaque sermon durant toute la fête, 17 sermons, le sermon de la soirée d'ouverture, plus ensuite de ça, un sermon chaque matin et un sermon chaque soir pour les 8 jours suivants, 17 sermons. Il se basait sur la Bible et il nous expliquait les voies de Dieu. Il nous expliquait les choses que nous avions besoin de comprendre. Et il nous expliquait comment Rome s'était saisie de l'Église au début de l'ère moderne, après le départ de Christ. Il nous enseignait 17 sermons solide à la fête des tabernacles, 3 années successives. J'ai jamais oublié ça, cette première fête en 1949. Ça a été pour moi un point tournant dans ma vie, parce que j'avais grandi dans une église protestante et je comprenais rien, je comprenais pas le plan de Dieu. Je savais pas comment observer les commandements, ni rien. Je comprenais pas la prophétie, je comprenais pas beaucoup de détails. Mais écoutez, après 8 jours, ma première fête, après 8 jours, et 17 sermons explicatifs de M. Armstrong à partir de la Bible. J'ai commencé à comprendre. Ça m'a tellement encouragé. Et Dieu a ouvert des portes ensuite à M. Armstrong pour annoncer l'Évangile par la radio, par la presse écrite et par la télévision. 3 années plus tard, j'ai gradué du collège en 1952. On avait seulement 3 églises à ce moment-là, Portland, Eugene et Pasadena. On avait 150 à 200 membres en tout et partout. Ça a été seulement après la graduation de certains d'entre nous que L'Église a grandi. Monsieur Armstrong savait qu'il devait d'abord commencer par entraîner des jeunes hommes fidèles qui allaient servir de ministres pour aider les gens. J'ai fait des tours de baptême après ça au Canada, aux États-Unis. Et là, Dieu a appelé des gens. L'Église a grandi. À Belknap Springs, en Oregon, nous avons eu la fête. Après ça, à Ziegler Springs, Californie, on n'était pas nombreux. Il n'y avait pas de fête des tabernacles ailleurs sur la planète. Il n'y avait pas de fête des tabernacles au Canada, ni en Grande-Bretagne. En tout et partout, à Ziegler Springs, il y avait 400 personnes. Après ça, à Big Sandy, il y avait plus de monde. On avait 700 personnes présentes. Et je me rappelle, il faisait froid. C'était un bâtiment qui n'était pas fini de bâtir. C'était l'automne, il faisait froid, on grelottait. Mais on était tellement contents d'entendre la vérité. Richard Armstrong et moi, on était assis un côté de l'autre dans l'assemblée. À ce moment-là, on avait commencé à aider M. Armstrong. On prêchait aussi. Le 4 janvier 1961, là, ça avait monté. L'Église, donc, a grandi, grandi. Finalement, on a réalisé que ce ne serait pas assez. On commençait à avoir des gens en Angleterre et un peu partout à travers le monde. Alors, j'ai parlé à M. Armstrong. On revenait d'Angleterre sur l'avion le 4 janvier 1961. Mon épouse s'était assise avec Mme Armstrong et moi, je m'étais assis avec M. Armstrong. Dr. Hay était à côté aussi. Et on a parlé à M. Armstrong pour planifier des choses concernant la fête. J'ai expliqué à M. Armstrong que dans le passé, les gens n'allaient pas tous à la fête des tabernacles à Jérusalem. Il y avait sûrement d'autres sites de fête. Alors, j'ai expliqué ça à M. Armstrong et on a trouvé d'autres sites de fête pour qu'il y ait plus qu'un site. Après ça, il y a eu Squaw Valley en 1961. Après ça, on est allé à Jekyll Island, un autre site de fête, 2 ans plus tard. Et après ça, on a eu un autre site de fête en Pennsylvanie, dans les monts Pocono. Par la suite, Lake of the Ozark au Missouri et graduellement partout autour du monde. Et Dieu a béni l'Église qui a grandi. J'ai été témoin de ça. Je l'ai vécu. J'ai visité les sites de fête. J'ai été à Squaw Valley. Et je suis tellement reconnaissant à Dieu de toutes ces occasions. Dieu a béni M. Armstrong puissamment. Il était déterminé à faire ce que Dieu lui dit. Ça a toujours été le cas. Il a toujours travaillé à faire ce que Dieu lui disait, même si des choses n'étaient pas plaisantes parfois. C'est pour ça que nous sommes ici. Parce que lui et Mme Armstrong ont tenu le coup. Ils ont eu le courage d'être différents de tous les autres autour et de faire exactement ce que Dieu a dit de faire. Et je me rappelle ces fêtes-là de tout le début à Big Sandy. Il y avait un sentiment d'excitation, il y avait une atmosphère électrisante. Les gens venaient d'un peu partout et les gens campaient, avaient des petites tentes dans la nature à Big Sandy. Les gens étaient très heureux de faire ça. C'est sûr, c'était une époque différente. Il n'y avait pas d'hôtel, il n'y avait pas de Holiday Inn, il n'y avait pas de chaîne de motel comme nous avons aujourd'hui. Non, c'était très, très simple. Mais les gens étaient là de tout leur cœur. On était prêts à vivre dans des tentes, à avoir froid. On voulait surtout obéir à Dieu et être présent à cette fête, à Big Sandy et aux autres endroits. Il y avait, comme je vous dis, un enthousiasme qui était communicatif. On apprenait les voies de Dieu et Dieu bénissait l'Église. Ça grandissait, ça grandissait, ça grandissait. Quand j'ai gradué, il y avait à peu près 150 personnes en tout. À travers les années, sous M. Armstrong, on a atteint un nombre de 150 000 personnes à la fête des tabernacles. Pourquoi? Parce qu'on s'appliquait à vivre selon les voies de Dieu. M. Armstrong servait Dieu, mais il y a des hommes mauvais qui sont arrivés en charge de l'Église, qui ont corrompu les choses et qui ont détourné l'Église, qui sont retournés dans le protestantisme. Et Dieu a retiré ses bénédictions de cette organisation-là. Et l'enthousiasme est parti. Mais nous sommes ceux qui continuons. Nous avons combattu pour la vérité. Et il faut continuer à mettre notre foi dans le Christ qui va nous diriger, qui va nous guider jusque dans son royaume. Il faut comprendre ça et compter sur le Christ, être très reconnaissant d'avoir cette occasion de célébrer cette fête des tabernacles et de se représenter le beau plan de Dieu de comprendre ce que Dieu veut qu'on fasse. Allez maintenant, s'il vous plaît, à Deutéronome chapitre 16. Deutéronome, le chapitre 16. Nous allons commencer à lire au verset 1. Voici ce que Dieu dit. Observe le mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel ton Dieu. Car c'est dans le mois des épis que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Alors, il vient de parler de la Pâque et au verset 3, il parle de la fête des pains sans levain où les gens ne devaient pas manger de pain levé pendant 7 jours. La Pâque, c'est le sacrifice de Christ pour nous. Après, on doit célébrer la fête des pains sans levain qui représente notre part à jouer, le fait d'éliminer le mal de nos vies. La troisième fête, c'est la Pentecôte. C'est la fête des premiers fruits, des prémices. Nous sommes aujourd'hui les prémices de Dieu, le petit troupeau que Dieu appelle. Après ça, il y a la fête des trompettes, le retour de Christ dans un temps de guerre. Après, c'est les expiations. Et après, la sixième fête, c'est celle des tabernacles. Verset 13. Verset 13 du même chapitre. Tu célébreras la fête des tabernacles pendant 7 jours. C'est un commandement que Dieu nous donne. Quand tu recueilleras le produit de ton aire et de ton pressoir. Donc, c'est à l'automne, au moment de la grande moisson d'automne. Tu te réjouiras à cette fête, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et le Lévite, l'étranger aussi. Les étrangers qui sont avec nous, ceux de d'autres races ou de d'autres origines. L'étranger, l'orphelin et la veuve, prenez soin des veuves qui seront dans tes portes. Tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, dans le lieu que choisira l'Éternel. Car l'Éternel ton Dieu te bénira. Si on fait ces choses, frères et sœurs, si nous marchons avec Dieu, il va nous bénir et nous bénir de toutes sortes de façons. Il va nous donner la compréhension, il va nous donner la connaissance au-delà de tout ce que ce monde peut comprendre, parce qu'ils se sont éloignés des voies de Dieu. Nos familles seront plus fortes, nos enfants vivront une vie meilleure et nous allons nous préparer pour entrer dans le royaume. Nous avons une œuvre à faire, d'annoncer l'Évangile au monde avant le retour de Christ. Si nous gardons cette fête, nous serons bénis. Vous serez bénis dans tout le travail de vos mains. Verset 16. 3 fois par année, tous les hommes d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines. Ça, c'est la fête de la Pentecôte et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra pas devant l'Éternel les mains vides. Ça veut dire quoi? C'est qu'à ce moment-là, il faut amener une offrande généreuse à Dieu. Ce sera le cas demain. On prélèvera une offrande partout à travers le monde, dans les différents sites de fête, et ce sera la même chose le dernier jour de la fête. Verset 17, chacun donnera ce qu'il pourra selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. Dieu nous dit de faire ça, de donner généreusement. Il nous dit même de donner notre vie entière, pour servir Dieu, vivre selon ses voies et accomplir son œuvre. Alors, donc, verset 13, comme je vous ai dit, tu célébreras la fête des tabernacles pendant 7 jours. Tu te réjouiras à cette fête. Toi, ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante, le Lévite. Durant 7 jours, tu célébreras la fête des tabernacles, là où Dieu a mis son nom. Nous venons devant Dieu pour l'adorer durant cette fête. C'est la fête de la grande moisson. Nous devons nous réjouir de façon spéciale. J'espère que vous avez tous lu la brochure que j'ai écrite. Si vous ne l'avez pas lue encore, faites-le. La brochure s'intitule Les jours saints, le magistral plan de Dieu. Étudiez cette brochure. Ça explique chaque aspect des 7 fêtes de Dieu. Et ça explique qu'à la fête des tabernacles, nous devons nous réjouir devant notre Dieu. Nous devons l'adorer. Nous devons l'honorer. C'est une période extraordinaire et excitante. Qu'est-ce qu'on doit faire durant cette période-là? Il faut davantage étudier la Bible. Nourrissez-vous chaque jour de la parole de Dieu. N'oubliez pas votre vie de prière non plus. Prenez chaque jour du temps pour prier Dieu. En vous levant le matin, priez Dieu. Mettez-vous à genoux. Priez Dieu. Demandez à Dieu de nous guider. Demandez à Dieu de nous aider à faire sa volonté, d'apprendre ce qu'on a à apprendre durant cette fête. Méditez sur la parole de Dieu. Et aussi, il nous est commandé de fraterniser de nous réjouir avec les autres. Aidez ceux autour, encouragez. Soyez positifs envers tous les autres autour. J'espère que tous, vous allez le faire de tout cœur pour que nous ayons une merveilleuse fête partout à travers le monde. Comme on a vu dans Zacharie 14, le temps approche. D'ici 10 ou 15 ans, et probablement avant ça, le Christ sera de retour sur la terre, le roi des rois et seigneur des seigneurs. Et la terre entière, à ce moment-là, observera cette fête des tabernacles que nous observons à partir de ce soir. On veut être là. J'espère que vous allez tous y tenir. Écoutez, nous sommes des pionniers. Dieu vous a appelés et vous donne cette occasion unique, inestimable. Faites avec joie ce que vous avez à faire. Honorez votre Créateur durant cette fête, durant ces 8 jours, et Dieu va vous bénir si vous le faites. Étudiez chaque jour, priez chaque jour, méditez et prenez du temps avec les autres, encouragez les autres et goûtez la présence de Dieu. Chaque jour, demandez à Dieu de vous donner son Saint-Esprit, de répandre son Esprit. Aide-nous, Père, à t'adorer. Aide-nous à être plus unis et à continuer d'accomplir ton œuvre. Donne-nous d'être davantage unis, de préparer la voie devant le Christ. Faisons ça de tout notre cœur, frères et sœurs. Si vous le faites, Dieu va vous bénir à jamais. Alors, priez ce soir, frères et sœurs. Commencez tout de suite ce soir. Passez une bonne nuit de sommeil. Que Dieu vous bénisse et vous guide alors que vous marchez avec lui.